Discrimination linguistique, combattre la glottophobie. Voici la seconde et dernière partie de l'intervention de Philippe Blanchet, professeur de sociolinguistique et didactique des langues à l'Université Rennes 2 de Haute-Bretagne. Intervention enregistrée le 17 novembre 2017 à Ustaritz lors d'une soirée proposée par la communauté d'agglomération Pays Basque et la mairie d'Ustaritz à l'occasion de la Journée internationale de la langue basque célébrée chaque année le 3 décembre. La glottophobie est le processus qui consiste à exclure ou à stigmatiser quelqu'un pour la pratique d'une langue peu valorisée, comme un patois, un dialecte, ou une langue régionale, ou pour la pratique locale ou marquée socialement d'une langue commune par les phénomènes d'accent, de prononciation, de prosodie. La glottophobie restitue ainsi aux discriminations linguistiques toutes leurs dimensions sociales et politiques, en ce qu'elles touchent les locuteurs, les individus, et non les langues. Voici donc la seconde et dernière partie de l'intervention de Philippe Blanchet, consacrée donc aux discriminations linguistiques, combattre la glottophobie. Philippe Blanchet.
Est-ce que ça, c'est des discriminations? Bon, nous, on observe ces phénomènes, les gens nous racontent ça, on entend des gens dire ce qui nous semble être des énormités, et en tout cas que d'un point de vue scientifique, on peut considérer comme des absurdités, parce que c'est pas comme ça que les langues marchent, c'est pas comme ça qu'on a compris le fonctionnement des langues. Alors, il faut qu'on vérifie si c'est des discriminations. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une discrimination ? Une discrimination, ça se définit de deux façons. La première, c'est un critère que j'appelle éthique, un critère moral. Le deuxième est un critère juridique. Alors le critère éthique, c'est celui qui considère qu'on traite les gens différemment en utilisant un critère illégitime, un critère inacceptable moralement. C'est pas normal de différencier les gens à cause de ça. Hein. Donc c'est la définition que vous trouvez dans un dictionnaire de sciences humaines et sociales, le dictionnaire des discriminations, justement, qui donne cette définition très courte. C'est quoi une discrimination ? C'est une disparité de traitement, donc un traitement différent des gens qui sont traités différemment, et c'est fondé sur un critère illégitime. Il reste à savoir quels sont les critères illégitimes, évidemment. Hein. Alors comment on sait quels sont les critères illégitimes ? Il y a d'une part le consensus social, le fait que les gens considèrent que c'est pas acceptable, voilà, que c'est légitime ou illégitime, mais la plupart du temps, quand il y a un consensus social, ça aboutit à un deuxième critère qui est le critère de l'illégalité, du coup. Ça veut dire que la discrimination devient une notion juridique. Et effectivement, c'est une notion juridique dans beaucoup de droits de différents pays, y compris en droit français. Il existe un délit donc, qui est inscrit dans le code pénal, qui emmène les auteurs de ces délits devant le tribunal correctionnel, qui s'appelle une discrimination. Et on en a donc une définition dans la loi française qui dit ceci, « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre des personnes physiques ou morales, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les personnes physiques, c'est vous et moi. Toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de, et s'ensuit une série de critères qui, eux, sont pas seulement illégitimes, ils sont illégaux. Si vous traitez les gens différemment à cause de ça, c'est un délit, ils portent plainte contre vous, vous êtes appelé au tribunal correctionnel et vous pouvez être condamné à des peines assez lourdes. Si vous lisez l'article complet, vous verrez que la punition est assez sévère. J'y viendrai tout à l'heure parce que je vous montrerai le texte complet dans sa version actuelle qui est intéressant pour notre sujet. Donc il y a bien une discrimination à prétexte linguistique qui est identifiée par les chercheurs et qui qu'on peut comprendre et qu'on peut définir sur une base juridique. Du coup, il existe des discriminations linguistiques. La question, c'est, est-ce que les gens en sont conscients ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette notion de discrimination linguistique ? Alors, on a fait des enquêtes, là aussi, dans mon équipe de recherche, et on a demandé aux gens, c'est quoi pour vous une discrimination linguistique ? Et on s'est rendu compte que les gens pensent qu'une discrimination linguistique, c'est une discrimination des langues, mais pas des personnes. Que la discrimination linguistique, c'est quand on refuse une langue, ou une façon de parler une langue. Mais ça ne va pas plus loin. Ça s'arrête à la langue. Or, le problème des discriminations, c'est qu'elles ne concernent pas des abstractions comme les langues, qui ne sont d'ailleurs pas des sujets de droit, hein, mais ça concerne des personnes. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut conscientiser le fait que ces discriminations constituent des problèmes qui portent sur des individus. Et donc, pour déporter le regard, je me suis dit, il faut nommer la chose autrement. Si on la nomme autrement, on va peut-être la définir autrement. Et du coup, voilà, j'ai inventé ce mot, on l'a dit tout à l'heure, un glottophobie, qui est inventé sur le modèle de xénophobie, hein, le rejet des gens au prétexte qu'ils sont étrangers. Mais il y a toute une série, hein, homophobie, le rejet des gens au prétexte de leur orientation sexuelle, judéophobie, au prétexte que les gens sont juifs, etc. etc. Il y a toute une série de mots comme ça. Et donc j'ai ajouté glotto devant parce que d'abord c'est des mots grecs et que glotto ça veut dire langue en grec et qu'en plus il existe le mot polyglotte qui veut dire qui parle plusieurs langues, les gens connaissent, vous connaissez polyglotte. Hein. Je me suis dit les gens vont comprendre. Alors c'est un pari, hein, c'est pas évident quand on invente un mot nouveau un peu bizarre quand même comme celui-là, hein, de voir s'il va marcher. Et puis ben, grâce à ce livre dont on vous a parlé, là, que j'ai publié il y a maintenant presque 2 ans et qui a eu beaucoup d'écho médiatique surtout, qui continue à susciter l'intérêt, la preuve, je suis avec vous et vous êtes avec moi aujourd'hui, ben, je me suis rendu compte que le mot a bien marché. Les gens se l'approprient, il n'est pas difficile à prononcer et surtout quand on explique aux gens ce que c'est, ils comprennent tout de suite, ils disent « Ah ben oui, c'est vrai ». Et c'est pour ça que je reçois plein de témoignages. Parce que les gens me disent, bah oui, mais moi aussi j'ai vécu ça. Moi aussi, mon père, ma mère, mon voisin, mon oncle, ma cousine, mon boulanger, il leur est arrivé des choses comme ça, j'en ai vu. Et le fait qu'il y ait un mot pour nommer, du coup les gens voient quelque chose qui était là, qu'on sentait mais qu'on ne savait pas vraiment identifier. Et du coup, ça a multiplié d'abord la prise de conscience, mais surtout les témoignages. Je reçois des centaines de témoignages, j'en reçois quasiment tous les jours, et tant mieux, parce que moi, mon travail, c'est justement d'avoir des informations comme ça pour les étudier. Donc, il s'agit bien de discriminations qui ne portent pas sur les langues, mais qui portent sur les personnes, et qui sont à prétexte linguistique. Vous voyez la différence ? Ce n'est pas des discriminations linguistiques, c'est des discriminations à prétexte linguistique. Et du coup, si ça porte sur les gens et pas sur les langues, c'est plus un problème linguistique, c'est un problème social. C'est un problème politique au sens noble du mot politique, c'est un problème d'organisation de la vie dans la société. Et du coup, on va peut-être toucher au fond du problème et aux façons de le résoudre. Question, est-ce que les discriminations à prétexte linguistique font l'objet d'interdictions juridiques ? Est-ce qu'elles sont vraiment illégales ou pas ? Alors là aussi, j'ai cherché, c'est mon travail, je suis chercheur, hein, donc j'ai fait des investigations dans toutes sortes de textes. En gros, tous les textes qui ont pour mission de garantir les libertés fondamentales, les libertés publiques et les droits fondamentaux et de protéger les gens contre les discriminations. Il y a évidemment toute une série de textes. Alors, je vais vous en présenter de 3 niveaux. Le premier, c'est le niveau le plus important puisque c'est les textes à portée internationale sur toute la planète. C'est des textes qui ont été proposés par l'ONU, qui est la plus grande organisation intergouvernementale du monde. Il y a 200 États qui en sont membres. Et que les États peuvent ratifier pour les faire entrer dans la loi. Hein, ratifier un texte juridique international, c'est le Parlement qui ratifie, avec l'accord du Conseil constitutionnel. Ça veut dire que le texte est conforme à la Constitution. Et du coup, il devient une loi du pays. Hein, c'est ça le principe de la ratification. Vous avez le texte probablement le plus général. Vous connaissez la Déclaration universelle des droits de l'homme qui date de 1948. Hein. Cette déclaration n'est pas un texte juridique, c'est un texte d'intention. En 1966, elle a été transformée en un texte juridique qui est celui-ci, qui s'appelle le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, que la France a ratifié un certain nombre d'années plus tard, j'ai un trou, je ne me rappelle plus l'année, mais plusieurs années plus tard. Et il y a un article, l'article 26, que la France a ratifié, parce que vous savez, quand un État ratifie, il peut aussi refuser un article. Là, en l'occurrence, il y a l'article juste après, l'article 27, la France l'a refusé, parce que c'est l'article qui protège les gens, les droits des gens appartenant à des minorités. Comme vous le savez, l'État français ne reconnaît pas l'existence de minorités, donc il refuse de garantir la protection des gens qui appartiennent aux minorités, puisqu'il dit qu'il n'y a pas de minorité chez nous. Ça aussi, c'est un raisonnement un peu étonnant, parce que du coup, si de fait il n'y en avait pas, où serait le problème de protéger leurs droits ? Mais bon, on déclare qu'il n'y a pas de minorité, on refuse l'article 27. Mais on garde l'article 26, et regardez ce que dit l'article 26. « La loi doit interdire toute discrimination, garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, c'est bien notre sujet, notamment de langue. » On n'a pas le droit de traiter les gens différemment parce qu'ils ont des langues différentes. C'est écrit dans l'article 26 et c'est ratifié par la France. Conventions relatives aux droits de l'enfant, que vous connaissez sans doute parce qu'elle est affichée dans presque toutes les écoles. Il y a des enseignants et des enseignantes dans la salle. Elle a été proposée par l'ONU en 1989, ratifiée très vite par beaucoup de pays du monde, y compris la France, qui a encore une fois exclu un article du champ de sa signature, celui qui porte sur les enfants appartenant à des minorités linguistiques, ethniques, culturelles et religieuses, puisque vous savez bien, il n'y en a pas en France. Mais l'État français a ratifié cet article-là. Or, que dit cet article ? Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente convention, c'est-à-dire tous les droits qui viennent après, là on est dans l'article 2, c'est le tout début, hein. Tous les droits des enfants qui sont énumérés après, l'État s'engage à les respecter, il s'engage à les garantir à tout enfant, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération, vous voyez qu'ils en mettent plusieurs couches, hein, de toute considération, de quoi ? De langue. Un enfant, il a tous les droits, quelle que soit sa langue. C'est ça que dit ce texte. Et il a une force de loi, normalement. Et donc, il nous dit bien qu'il y a un truc qui constitue une discrimination, c'est si on traite les enfants différemment à cause de leur langue. Ça s'appelle la discrimination, c'est identifié comme tel dans ce texte à portée juridique internationale. J'en viens à des textes européens. Ici, vous avez le texte de la Convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux. C'est un texte du Conseil de l'Europe. Il est très ancien, il date de 1950, et c'est le texte qui sert de référence à la Cour européenne des droits de l'homme. Quand la Cour européenne des droits de l'homme juge une affaire sur la question du respect des droits humains, elle juge cette affaire en fonction de ce qu'il y a dans ce texte-là. Hein, c'est sa référence. Ce texte a été ratifié par la plupart des pays membres du Conseil de l'Europe, dont la France, mais plein d'autres autour de nous. Hein. Et il nous dit encore une fois, alors là, il a carrément un article qui s'appelle comme ça, « Interdiction de discrimination ». Il y a bien quelque chose qui s'appelle des discriminations et qui est interdit. Et qu'est-ce qui est interdit ? Les discriminations fondées notamment sur la langue. Il y a donc bien une constitution juridique de la notion de discrimination fondée sur la langue. Vous retrouvez la même chose dans ce texte qui, lui, vient de l'Union européenne, qui s'impose à tous les États membres de l'Union européenne, aussi bien l'Espagne, la Belgique que la France, qui sont membres de l'Union européenne, et qui dit lui aussi la même chose, hein, toute discrimination est interdite, y compris quand elle est fondée sur la langue. Vous voyez que j'invente pas, hein. Et puis, j'en viens quand même au droit français. On est passé du monde à l'Europe et de l'Europe, on passe à la France. Ici, vous avez l'article 225 du Code pénal. Cet article est celui qui, depuis 2001, interdit les discriminations. Je vous ai cité son début tout à l'heure. Hein. Et ici, vous avez la liste des 23 critères interdits en France, dont celui qui est en rouge, qui a été ajouté en novembre 2016, il y a maintenant un an, et qui dit que on ne peut pas, enfin, que c'est une discrimination de distinguer les gens sur le fondement de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. C'est dans le code pénal de la loi française. Voilà. C'est un délit. Si on vous traite différemment parce que vous pouvez vous exprimer dans une autre langue que le français, c'est une discrimination et c'est un délit dans le droit français aujourd'hui. Si vous parlez basque quelque part et qu'on vous traite différemment que quelqu'un qui parle français, l'article 225 du Code pénal s'applique. On vous a discriminé. La formulation est un peu bizarre. Hein. La compétence à capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, on a l'impression qu'il tourne un peu autour du pot. Hein. Alors, j'ai essayé de vérifier comment ce texte était interprété. Quand il est paru en 2016, paru totalement en catimini, la plupart des gens ne s'en sont pas rendus compte. Hein. En plus, il est passé au détour d'une loi qui portait sur toute autre chose. Il y a des députés qui ont glissé ça et c'est passé. Donc, comment est-ce qu'on comprend ça ? Il y a des débats là-dessus, mais j'ai consulté plusieurs juristes. J'ai consulté le défenseur des droits, vous savez, dont la mission est justement de faire appliquer cette loi, la loi contre les discriminations, Jacques Toubon, qui m'a confirmé qu'il faisait la même interprétation que moi. Il dit bien que ça veut dire que si vous parlez une autre langue, et lui pense que c'est vraiment fait pour protéger les usagers des langues régionales, il l'a compris comme ça. Il m'a dit clairement, c'est une façon de faire la même chose que la charte européenne sans la signer. Il l'a compris comme ça. Hein. Et donc, ça veut, pour lui, comme pour d'autres, comme pour moi, ça veut bien dire que désormais, si vous décidez de vous exprimer parce que vous en êtes capable dans une autre langue que le français, on n'a pas le droit de vous traiter différemment. Y compris quand vous décidez d'écrire le prénom de votre enfant dans une autre langue que le français, puisque vous avez la compétence à écrire en breton. Peu de gens connaissent ce texte. Hein. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Il est récent. Alors, du coup, vous voyez, on a quand même toute une série d'éléments juridiques qui nous permettent d'être sûrs qu'il existe quelque chose qui sont des discriminations à prétexte linguistique, donc de la glottophobie, selon mon terme. Et pourtant, on a tous les témoignages qui sont avant. Et pourtant, on pratique la glottophobie à tous les niveaux, dans tous les secteurs de la vie sociale, quelles que soient les personnes, institutions, individus, on pratique la glottophobie en permanence dans la vie quotidienne, en tout cas en France, mais on peut la vérifier ailleurs. La question qu'on s'est posée, du coup, c'est mais pourquoi, comment ça se fait qu'on ait ces comportements-là? Alors, on a une réponse à proposer, je vais vous la proposer, c'est que l'histoire de la construction linguistique de la France a amené les gens à être glottophobes. C'est-à-dire qu'on a, d'une certaine façon, institutionnalisé les discriminations à prétexte linguistique. On en a fait un principe d'organisation de la société française. Alors, je vous donne juste quelques repères rapides, hein. Sans doute parce que vous les connaissez déjà, hein, mais bon, vous connaissez ce début de la Constitution, notamment de la Première République française en 1789. La République est une et indivisible. Hein, donc l'idée de focaliser sur l'unicité, pas seulement sur l'unité, parce qu'on peut être uni en étant divers, sur l'unicité de la République. Vous connaissez probablement ce terrible rapport de l'abbé Grégoire sur la nécessité d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française. J'aime toujours dire au passage que l'abbé Grégoire est un héros national dont les cendres ont été transférées au Panthéon, hein, bien qu'il ait écrit cette chose qui est assez terrible. Si vous lisez le rapport, la façon dont il considère les gens qui parlent d'autres langues que le français, c'est assez terrible, hein, c'est d'un mépris violent. Pour vos ancêtres comme pour les miens. Et puis à partir du moment où la révolution bascule dans la dictature, à partir de 1793, où se met en place ce qu'on a appelé le régime de la terreur, toute une série de textes juridiques fondent la politique linguistique française et construisent cette idéologie de la langue unique supérieure aux autres. Alors vous avez dans toutes les parties de la République, l'instruction ne se fait qu'en langue française, octobre 1793, c'est évidemment totalement inapplicable en 1793, personne ne peut enseigner qu'en français dans la plupart des régions de France, parce que les gens ne sont pas francophones, et la plupart des élèves ne peuvent évidemment pas le comprendre, mais on voit bien qu'il y a un projet idéologique, même s'il n'est pas réaliste, hein. Juillet 1794, interdiction de rédiger un acte public, même sous sein privé, c'est-à-dire même un contrat entre des individus, hein, dans une autre langue que le français. Donc interdiction, par exemple, de signer un contrat en basque. Hein, voilà, et les officiers d'état civil qui les recevaient subissaient une punition juridique qui était très grave à l'époque, puisqu'ils étaient d'abord destitués, ils risquaient une lourde peine de prison, vraiment là. On voit que la politique est très, très affirmée. Et du coup, ça a construit ce que beaucoup de sociolinguistes avant moi ont appelé une religion d'État. C'est-à-dire qu'on a fait de la langue une religion. Hein. Quelque chose qui est à la fois le cœur et l'idéal, l'emblème idéal de l'unité nationale de la République. Hein, puisqu'on voulait à ce moment-là construire un État français qui soit habité par une seule et même nation, qui ait une seule et même langue et une seule et même culture. Et du coup, les gens révèrent la langue française d'une façon religieuse. D'ailleurs, quand on lit les discours, je vais vous en montrer, on voit que c'est souvent des termes religieux qui sont utilisés pour parler de la langue. Et du coup, ils ont abdiqué toute forme de rationalité. Ils sont dans la croyance. Et donc, leur rapport à la langue est un rapport passionnel, un rapport de croyance. Vous savez bien, hein, dès que quelqu'un... lisez les courriers des lecteurs dans la presse, regardez sur Internet les commentaires dès que les gens écrivent. Il y a plein de gens qui s'offusquent parce qu'on a fait une faute d'orthographe, parce qu'on a employé un mot qui ne plaît pas. Voilà. Hein, la langue est quelque chose d'intouchable. Hein. C'est sacré. On ne peut pas modifier la langue. C'est comme un texte religieux. On n'a pas le droit de le modifier. Je vous dis ça, ça peut vous paraître un propos un peu, disons, exagéré, fort. Mais les gens qui disent ça sont pas du tout des révolutionnaires. Hein. Bernard Cerchilini, un de mes collègues sociolinguistes, maintenant à la retraite, a été délégué général aux langues de France, c'est une fonction institutionnelle. Hein. Il a été recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, donc on lui a fait cette confiance-là. C'est sans doute qu'il n'était pas perçu comme... Un révolutionnaire de la langue. Pierre Ancrevé était conseiller de Michel Rocard quand il était Premier ministre, puis de Catherine Trottmann quand elle était ministre de la Culture. C'est pareil, c'est pas quelqu'un qui était perçu comme ayant un point de vue insupportable sur la langue. Il était conseiller linguistique, hein, du Premier ministre et puis de la ministre de la Culture. Et puis Henriette Walter, vous connaissez Henriette Walter, c'est une linguiste célèbre hein, qui a fait un très beau travail de vulgarisation à travers ses livres comme Le français dans tous les sens, enfin, qui ont eu beaucoup de succès. Et c'est pareil, Henriette Walter, c'est pas du tout une révolutionnaire de la langue, simplement elle constate que ben, nous, scientifiques, on regarde comment marchent les langues et puis on regarde comment la plupart des gens regardent la langue et on se dit, mais il la regarde comme si c'était une religion, il ne la regarde pas comme un objet qu'on peut analyser rationnellement. Même chose pour deux sociolinguistes comme Bourdieu, deux sociologues pardon, comme Bourdieu et Boltanski qui disent qu'en France, la langue, on en a fait un fétiche au sens religieux du terme. Hein. Vous savez, le fétiche des religions animistes. Hein. Et ça aboutit, vous voyez, 200 ans après, quasiment après les premières lois de 1793, à la modification de l'article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français, que vous connaissez, j'imagine. Hein. Je voudrais vous faire deux commentaires à ce propos. Le premier, c'est que c'est seulement depuis 1992 que le français a un statut légal en France. Il n'y avait aucun texte qui lui donnait un statut de langue officielle précédemment, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Y compris parce qu'on leur a dit des choses qui sont fausses. Et surtout, je voudrais attirer votre attention sur la formule qui est très intéressante. Ce n'est pas la langue officielle de la France et le français, ce qui serait la formule banale qu'on trouve dans tous les autres pays, ou presque. Hein. C'est la langue de la République et le français. Et on ne dit même pas la République française, c'est la République. C'est-à-dire qu'on associe la langue à un mode de gouvernement, à un mode d'organisation démocratique de la société, ce qui fait que si vous touchez au français, par voie de conséquence, ça veut dire que vous contestez la République. Et donc, du coup, le français est intouchable, parce que vous ne pouvez pas contester la République. Vous voyez comment on met en place un système de pensée qui rend la langue centrale, sacrée et intouchable. Ça soulève toute une série de questions qui nous permettent de comprendre pourquoi c'est comme ça. En France, on pourrait aller voir ailleurs. Hein. Moi, j'étudie les situations que je connais et que je vis au quotidien. Alors, d'abord, il y a la question de la confusion entre unité et unicité. Hein. La nation française a été construite à partir de la Révolution française. Avant, elle n'existait pas sous l'Ancien Régime. C'était une toute autre conception de la société. Elle a été construite sur la confusion entre l'unité et l'unicité. Hein, avec l'idée que pour qu'il y ait une unité de la nation, il fallait absolument que cette nation soit unique et non pas diverse. Hein. Et donc, puisqu'elle était diverse, c'est clair, en 1789, ce qui devient la France, c'est un ensemble de pays qui sont très différents les uns des autres, qui ont des régimes fiscaux, des langues, des poids et mesures, des heures locales, enfin, tout est différent. C'est des pays qui ont, y compris, des modalités de rattachement au Royaume de France qui sont très différentes les unes des autres. Ça n'a rien à voir avec l'organisation d'un État centralisé, harmonisé. Hein. Donc, on veut construire un État-nation. Simplement, on fait le pari que il faut construire une nation qui ait une même langue et une même culture pour qu'elle soit totalement unifiée et que du coup elle garantisse l'unité nationale. Avec la peur que la diversité, ça soit la source d'une désunion, hein, d'une non-unité nationale. Mais du coup, ce dont on ne se rend pas bien compte, c'est que comment ça s'appelle une communauté humaine qui partage une même langue et une même culture ? Ça s'appelle une ethnie. C'est la définition même de l'ethnie. C'est-à-dire qu'on a construit, sans le dire, et peut-être même sans le penser, la nation française comme une nation ethnique. Tout le monde doit avoir, il n'y a pas de diversité possible, il n'y a pas des gens qui ont des langues différentes, des cultures différentes. Non, ça, c'est pensé comme un danger, à tort bien sûr, hein. L'expérience le prouve ailleurs, mais l'idée c'est qu'on veut transformer ces gens qui ont des langues et des cultures différentes en un seul peuple qui aurait une seule et même langue. Pour ça, il faut leur imposer une langue et il faut leur interdire les autres. C'est le projet central de la politique linguistique, mais aussi du projet d'identité nationale. C'est l'idéologie nationale française. Ça soulève un autre problème. Vous voyez qu'on touche à des questions de fond. C'est pour ça que politiquement, c'est des questions difficiles à traiter. C'est qu'on a considéré que la seule façon de garantir l'égalité, c'était de supprimer la diversité. C'est encore ce qu'on vous dit aujourd'hui. Hein. Pour garantir l'égalité des droits, vous n'avez pas le droit d'utiliser des langues différentes. Hein. Il y a des arguments. Je crois que c'est l'un des arguments qui a été évoqué, employé pour invalider la décision de déclaration de l'officialité du basque ici à Ustaritz aussi. Hein. L'idée, c'est que vous mettez en péril l'égalité parce que vous créez de la différence. Donc il y a une idée selon laquelle l'égalité n'est possible que s'il n'y a pas de diversité. C'est une façon de poser le problème qui est très bizarre sur le plan rationnel. Parce que la question de l'égalité ne se pose que s'il y a de la diversité. Si les gens sont tous identiques, ils sont forcément égaux. Il n'y a plus de problème d'égalité. Pour qu'il y ait des problèmes d'égalité, pour qu'on ait besoin de garantir l'égalité, il faut accepter la diversité des gens et dire, quelle que soit la diversité des gens, ils doivent tous être traités de la même façon. Là, ça devient un projet d'égalité. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on a voulu évacuer la question de l'égalité, non pas en traitant les gens de façon égale, mais en empêchant que la question de l'égalité se pose. Et donc en disant, vous serez tous identiques, la République ne connaît que des citoyens individuels qui sont tous les mêmes, qui parlent tous la même langue, qui ont tous la même culture, qui sont tous sujets de la nation de la même façon. Et du coup, la question de l'égalité ne se pose plus. Mais comme vous savez que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, c'est un mythe idéologique, les gens sont forcément divers. Nous sommes tous différents. Et puis vous parlez aussi basque, peut-être espagnol, peut-être béarnais ou gascon. Moi, je parle aussi italien et provençal. Voilà. Et puis, on a des goûts, des engagements qui sont variés. C'est normal. Hein. Vous êtes peut-être dans un syndicat, d'autres dans un autre. L'humanité est faite de diversité. Donc, finalement, comme la diversité est quand même là, du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça crée exactement l'inverse. Ça crée une inégalité. Ça met les gens en situation d'inégalité. Par exemple, si votre langue première est le basque, vous êtes en situation d'inégalité par rapport à quelqu'un dont la langue première est le français. Parce que cette personne, elle a tous ses droits, spontanément, automatiquement, en français. Vous, vous n'avez pas tous vos droits, spontanément, automatiquement, dans votre langue première. Vous êtes obligé de passer par une autre langue pour avoir accès à vos droits. Et ça, ça s'appelle un traitement inégal. Et d'une certaine façon, on peut considérer, on a des raisons de le penser, que c'est de la discrimination. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que l'histoire de la France, c'est l'histoire d'une puissance coloniale. Ce n'est pas la seule. Hein. Il y a eu l'Angleterre, il y a eu l'Espagne, il y a eu un peu le Portugal. Et que cette histoire coloniale, elle s'est construite à travers les siècles, depuis le XVIe. Hein. Ça a marqué l'histoire de France depuis très longtemps, mais surtout à partir du XIXe siècle, c'est-à-dire exactement en même temps qu'on construit la France moderne, qu'on invente l'État-nation France. Et donc, cette idéologie coloniale, on va la retrouver incidemment, un peu partout, avec l'idée qu'il y a des gens supérieurs à d'autres, qui ont des langues, des cultures, des civilisations, on a beaucoup employé ce mot-là, supérieurs à d'autres, et qu'ils ont le droit d'imposer leur langue, leur culture et leur civilisation aux inférieurs, parce qu'ils sont supérieurs. C'est le principe même de la colonisation. Hein. Je vais vous en montrer des conséquences tout à l'heure. Mais avant, pour faire une petite récréation, je vous pose une petite devinette, histoire de vous réveiller au milieu, là. Hein, voilà. Qui a dit ça? L'unité nationale, nous la voulons absolue avec une seule langue, le français, et une seule personnalité française. Je prends les propositions. Qui a dit ou qui peut avoir dit ça? Oui, une idée?
Mélenchon.
Ça vous paraît probable? Oui? C'est probable, vous dites Macron? Macron? Donc ça vous paraît probable, possible en tout cas. Une autre proposition? Manuel Valls, d'accord. Vous commencez à vous rapprocher. Nicolas Sarkozy. Allez, une dernière pour s'amuser. Dernière proposition? Non? On a fait le tour de l'échiquier politique? Pardon? Hollande, très bien. Alors je vous ai tendu un tout petit piège, parce que c'est une traduction. La version originale, la voilà. Qui a dit ça? Ok, Rajoy, je prends d'autres. Vous avez gagné. C'est intéressant que vous pensiez possible ou probable que quelque chose qui ait été dit par Franco puisse être dit par quelqu'un en France comme Valls, Mélenchon, Hollande, Macron, c'est intéressant. Hein. Pardon pour ce petit jeu, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que en France, la dictature linguistique est banale. Et que donc, on s'attend à ce que n'importe quel homme politique tienne un propos de dictateur linguistique. Y compris en reprenant effectivement les propos d'un dictateur. Parce que lui, il n'y a pas de doute. Hein. On peut être assez d'accord là-dessus. Justement, en parlant de dictature, je vous ramène à cette question du vieux fonds colonialiste français. pour vous montrer où est-ce qu'il va se cacher. Ici, alors, vous savez qui était Jules Ferry, hein, il a été le fameux ministre de l'instruction publique qui a créé l'école laïque, publique et obligatoire aux alentours des années 1880. On sait moins qu'il a été président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, il a aussi été ministre des Affaires étrangères. Et c'est en tant que, je ne dis pas de bêtises, président du Conseil, oui, qu'il a tenu un jour ce discours à l'Assemblée nationale, qui s'appelait à l'époque la Chambre des députés, dans lequel il justifie la colonisation. C'est à l'époque où on mettait en place vraiment, on installait partout la colonisation française. On est, vous voyez, en 1885, ça veut dire que, y compris les guerres de conquête coloniale sont terminées, sont gagnées. Hein. L'Algérie, par exemple, on commence en 1830, en 1885, la guerre est gagnée. On a conquis l'Algérie, donc on met en place la colonisation, et il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord à la Chambre des députés, et Jules Ferry fait ce discours dans lequel il justifie la colonisation, et je trouve intéressant son argumentation. Il dit qu'il y a un côté humanitaire et civilisateur à la colonisation, et il dit ceci: il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles, elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. C'est Jules Ferry, hein. C'est intéressant parce que par ailleurs, il a son nom partout dans les rues de France. Hein. C'est pas pour ça. J'espère que c'est pas pour ça qu'il a. Il y a des écoles qui s'appellent des écoles Jules Ferry. Heureusement qu'on ne sait pas qu'il a dit ça parce que c'est un peu limite quand même sur le plan idéologique. Hein. En tout cas, si on a des convictions un peu humanistes. Mais c'est intéressant l'idée qu'il y a une supériorité de certaines races sur d'autres, de certains groupes humains sur d'autres, hein. et chez un homme qui est pas un extrémiste par ailleurs à l'époque, hein. Et ce discours-là, il était audible. Aujourd'hui, quelqu'un dirait ça à l'Assemblée nationale, ce serait insupportable, hein. Mais à l'époque, ce discours était audible, hein, y compris par un homme qui n'était pas un extrémiste du tout. Et donc, vous voyez comment ça contribue à installer dans la tête des gens et dans l'idée de la France que il y a des gens supérieurs à d'autres et qu'ils ont le droit d'imposer des choses à d'autres, y compris leur langue, bien sûr, puisqu'il s'agit d'imposer la civilisation. Pour vous montrer que c'est toujours la même chose qui se reproduit à travers le 19e siècle, vous avez ici le texte de 1793 que je vous ai montré tout à l'heure, et je vous montre un texte de 1880, quasiment 100 ans plus tard, au moment où justement on met en place l'école dite de Jules Ferry, qui dit exactement, qui pose la même règle: le français sera seul en usage dans l'école. C'est vraiment la même chose qui est répétée tout le temps. D'ailleurs, regardez ce qu'écrit l'inspecteur général Irénée Carré en 1889, à la même période, dans le livre du maître, de sa méthode pour l'école. Il écrit ceci: nos écoles primaires doivent être entièrement en français et ne servir qu'à l'enseignement du français. Nous amènerons insensiblement les populations soumises à notre domination à s'incliner devant la force des choses et à accepter notre langue et notre civilisation. Un discours bien colonial, le même que celui de Jules Ferry. Regardez le titre du manuel qui est un petit peu plus bas, un peu plus petit. Méthode pratique de langage, de lecture, d'écriture et de calcul, plus spécialement destinée à qui ? Destinée aux élèves des provinces où on ne parle pas français et qui arrivent en classe ne comprenant ni ne sachant parler la langue nationale. Ce n'est pas un livre fait pour les populations colonisées à l'extérieur de la France. C'est un manuel qui est fait pour les petits Basques, pour les petits Bretons, pour les petits Provençaux, pour les petits Picards, pour les petits Auvergnats, qui doivent insensiblement être amené à se soumettre à la domination et à la suprématie de notre, il veut dire, du point de vue français, langue et notre civilisation. Vous voyez que cette idéologie coloniale, on la retrouve y compris dans cette mise en place de l'éducation française et de la place de la langue française à l'école. Manuel de 1947, manuel de français, qui s'intitule « Notre langue maternelle », qui enseigne ceci aux élèves. Le français est notre langue maternelle. Vous voyez, c'est écrit. Je vous ai photographié la page. Hein. Les élèves doivent apprendre par cœur et réciter. La première langue parlée par un enfant est sa langue maternelle parce que c'est surtout sa maman qui la lui a apprise. Notre langue maternelle est le français. C'est-à-dire qu'on apprend aux enfants à réciter un discours qui est faux. On les oblige à dire que le français est leur langue maternelle, alors que ce n'est pas leur langue maternelle, en 1947, pour une grande partie d'entre eux. Vous voyez comment on met ça dans la tête des gens, hein ? Voilà. Et comment, à force de répétition, de faire entrer la même idée par toutes les portes et par toutes les fenêtres, on met dans la tête que, bah oui, il y a une langue qui est la langue qui s'impose à tous, et que les autres langues, elles ne doivent pas compter. Alors du coup, vous retrouvez ça aujourd'hui. C'est toujours dans les têtes des gens. Et c'est pour ça qu'ils continuent à tenir des propos glottophobes. Alors ici, vous avez l'actuel ministre de l'Éducation nationale. On reste dans le même discours, Jean-Michel Blanquer. Alors je vous donne deux tweets. Je vous ai dit que les tweets, c'était une source merveilleuse d'informations. La première mission de l'école est d'être l'école du langage, un langage de qualité qui amène chacun au meilleur de lui-même. Vous savez bien quel est le langage que l'école en question enseigne. Ça date de juin 2017. Et d'ailleurs, il précise, ça date de la semaine dernière. Il y a une seule langue française, une seule grammaire, une seule république. Alors d'abord, c'est une absurdité scientifique, il n'y a pas une seule langue française et une seule grammaire. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est l'amalgame. Une seule langue française, une seule république. Vous voyez ? Toujours dans la tête des gens, le français c'est la république c'est le français. La nation c'est la langue. Florian Philippot, qui découvre en 2016 qu'on a modifié l'usage de l'accent circonflexe en 1990, il y a un certain temps de retard, et qui envoie un tweet qui est pas, évidemment il n'est pas d'accord puisque par définition il défend une ligne conservatrice, mais surtout l'argument est intéressant parce que le français est notre âme. Je vous parlais de discours religieux tout à l'heure, parce que le français est notre âme. Mais là on trouve la même chose et c'est chez des gens du Parti Socialiste, tweet de la section aixoise du Parti Socialiste qui répond à un de ses militants qui avait fait une faute d'orthographe, le parti sans S, parce qu'il avait écrit le parti avec un S. Le parti sans S, peu importe, mais surtout, aimer la France, ça commence par aimer le français. Vous voyez encore, la langue, c'est la nation. On le répète, on le rabâche en permanence. Allez, puisqu'on en parlait, Emmanuel Macron, le 16 septembre dernier, rend visite à des élèves dans une classe d'une école primaire de la banlieue parisienne, dans les Yvelines, et il leur fait la leçon, et il leur parle de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Et il leur dit ceci, j'ai visionné, c'était filmé, parce qu'à ce moment-là, dans ce château, le château de Villers-Cotterêts, en 1539, le roi a décidé que tous ceux qui vivaient dans son royaume devaient parler français. Alors c'est évidemment complètement faux, il n'y a pas du tout ça dans l'ordonnance de Villers-Cotterêts, mais il se sent le droit de donner à des enfants une leçon, à l'école en même temps, on n'enseigne pas n'importe quoi aux enfants, d'enseigner aux enfants une énormité aussi grosse, pardonnez-moi la répétition, et surtout, qu'est-ce qu'il dit ? Il fait comme si l'obligation du français était très ancienne, elle remonterait au début du XVIe siècle, pour lui donner une espèce d'évidence historique. Alors qu'évidemment, ce n'est pas vrai. Et il rajoute ça, il double ça par un tweet qui est juste au-dessus, et dans le tweet, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il a fait un retour sur, regardez, un acte fondateur de notre identité. La langue, c'est l'identité française. Vous voyez, on le rabâche, on le répète tout le temps, y compris quelqu'un dont la parole a une grande autorité, c'est quand même le président de la République française. Qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça ? Alors, d'abord, s'appuyer sur des arguments juridiques. Les discriminations sont un objet juridique, un objet de loi, un objet de droit. Il faut s'appuyer sur des éléments de droit. Alors, je vous ai déjà cité les textes internationaux qui s'appliquent en France. Je vous rappelle l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait partie intégrante de la Constitution de la Ve République. L'article 11 garantit la liberté d'expression. Et c'est au nom de l'article 11 que le Conseil constitutionnel a censuré la loi Toubon en 1994 en disant qu'elle n'avait pas le droit d'empêcher les gens de choisir les mots dans lesquels ils voulaient dire les choses, qu'on a une liberté à s'exprimer avec les mots de notre choix. Le Conseil constitutionnel n'a pas dit les mots en français, il a dit les mots. Il vous a donc autorisé à choisir des mots basques si c'est votre choix pour vous exprimer. Il y a aussi l'article 75 de la Constitution, vous savez, celui qui dit que les langues régionales font partie du patrimoine de la France. Ça ne mange pas de pain, mais ça donne quand même un statut constitutionnel aux langues régionales. C'est un argument de poids. Il y a l'article 225 du Code pénal, dont je vous ai montré tout à l'heure la version 2016, incluant les discriminations linguistiques. Il y a l'article 21 de la loi Toubon, vous savez, la loi sur l'usage du français qui est encore en vigueur. L'article 21 dit que cette loi s'applique sans empêcher l'usage des langues régionales. Pas tout à fait la même formulation, j'ai un petit trou là. Sans s'opposer, c'est ça. Sans s'opposer à l'usage des langues régionales. Donc il y a quelque part dans une loi en vigueur quelque chose qui dit que l'obligation du français ne s'oppose pas à l'usage des langues régionales. Un argument intéressant pour les langues régionales, pas pour les autres hélas, mais pour celles-là. Et puis il y a la loi NOTRe, qui réorganise les collectivités territoriales, et ça c'est du local, ça c'est ici que ça se passe, hein, qui dit quoi ? Qui dit d'abord que la France a décidé de faire appliquer la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO. Elle devient une loi en France. Or, elle garantit quoi ? Elle garantit justement le droit à la diversité des expressions culturelles. Ben, dans la diversité des expressions culturelles, il y a la diversité linguistique des expressions culturelles, bien sûr. Et ça dit qu'on doit la protéger, cette diversité. C'est dans la loi française depuis 2015. Ça dit aussi qu'il y a des compétences qui sont partagées par toutes les collectivités territoriales, de la commune à la région, et que parmi ces compétences, il y a celle de promotion des langues régionales. Il y a une loi qui vous dit, à vous élus ici d'une commune ou d'une communauté d'agglo ou du conseil départemental ou régional, s'il y en a ou si vous en connaissez, qui vous donne pour mission la promotion des langues régionales. Donc on vous incite bien à le faire. La loi vous incite à le faire. Donc on a des arguments juridiques. Une fois qu'on a des arguments juridiques, on peut mener des actions par le haut, des actions globales, c'est-à-dire on peut changer la loi, on peut faire changer les règlements, y compris à un moment donné pointer les incohérences et dire ça va pas. Alors soit vous jouez avec les incohérences, là on nous dit non mais là on nous dit oui, donc on va passer par où on nous dit oui. On sait faire ça, hein. Soit à un moment donné, arriver à ce qu'on mette en cohérence l'appareil législatif et réglementaire français, en allant dans le sens du respect des droits linguistiques des gens, hein. Bon. Ce qu'on devrait faire puisqu'ils sont garantis. Ça veut dire aussi qu'il faudrait pouvoir agir au niveau éducatif. Vous avez vu le rôle énorme, structurant, déterminant de l'éducation dans le fait de rendre les gens glottophobes, de les éduquer à l'idée qu'il y a des langues supérieures à d'autres, qu'on a le droit d'interdire l'usage d'une langue, qu'on peut humilier quelqu'un dans une classe parce qu'il parle une langue ou parce qu'il a un accent. C'est à l'école que ça se passe, C'est à l'école qu'on l'apprend. C'est pas que à l'école, mais c'est aussi à l'école. Et si l'école apprend ça, elle peut aussi apprendre le contraire. Elle peut aussi vous apprendre à ne pas discriminer. D'ailleurs, ça fait partie de ses missions, hein. C'est dans les missions de l'école, la lutte contre les discriminations. Donc, elle devrait aussi lutter contre les discriminations linguistiques. Il faudrait qu'on obtienne qu'à l'école, on éduque nos enfants à la bienveillance linguistique, à ce que j'appelle l'hospitalité langagière, à accueillir les langues et la parole des gens. Au lieu du contraire. Et puis, enfin, je termine avec ça, je vous renvoie à vous, je nous renvoie à nous. Nous, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus avoir de comportement glottophobe, pour ne pas se moquer des gens, pour ne pas rire quand ils parlent avec un accent, pour ne pas être fâché quand on entend une langue qu'on ne comprend pas, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter de se comporter comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour refuser qu'on nous discrimine et pour aider par solidarité ceux qui sont discriminés en disant « Mais non, vous n'avez pas le droit de traiter les gens comme ça, c'est de la discrimination, changez votre comportement. » Parce qu'il faut aussi que ça commence par nous. Si vous voulez plus d'informations, vous pourriez lire ce livre en l'empruntant à la bibliothèque parce qu'il n'est plus en vente pour une bonne raison, il est épuisé. Tant mieux, ça veut dire qu'il a eu du succès et que les idées se diffusent. On peut toujours se le procurer en version numérique, mais en général, les gens, ils n'aiment pas trop lire un livre sur un écran. Il fait quand même 192 pages. Voilà. Mais empruntez-le à la bibliothèque, n'hésitez pas. Et je vous remercie dans mes langues du cœur et dans la vôtre pour le temps que vous m'avez accordé en vous rendant désormais la parole.
Discrimination linguistique, combattre la glottophobie, vous venez de suivre la seconde et dernière partie de l'intervention de Philippe Blanchet, professeur de sociolinguistique et didactique des langues à l'Université Rennes 2 de Haute-Bretagne. Intervention enregistrée le 17 novembre 2017 à Ustaritz, lors d'une soirée proposée par la communauté d'agglomération Pays Basque et la mairie d'Ustaritz à l'occasion de la Journée internationale de la langue basque, célébrée chaque année le 3 décembre.